When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Roy, et pas Roy sinon on va m'appeler Vachette, président de Greenwiz.
Bonjour Alice.
Bonjour, je suis ravie de t'avoir dans L'Empreinte.
Moi je suis ravie d'être là.
Tu viens d'où toi déjà? Enfin tu viens d'où? Tu peux remonter sur tes origines mais tu t'es pas à Paris non?
Non, nous on est sur les bords du lac d'Annecy, à Saint-Jorio exactement.
C'est pas mal, bon je connais pas mais je vais aller googliser ça.
Ouais, tu devrais connaître, c'est un des plus beaux endroits de France, si ce n'est le plus beau.
Est-ce que t'es objectif quand tu me dis ça?
Je suis 100% objectif.
Ouais, qu'est-ce que tu fais à Paris du coup? Tu viens juste pour moi?
Je viens pas que pour toi, non. Je suis malheureusement obligé de venir assez régulièrement à Paris, donc j'essaie de grouper mes rendez-vous, mais je suis pratiquement une fois par semaine à Paris.
Ah ouais, quand même. Et en termes d'empreinte carbone, ça se passe comment?
Le train. Le train.
Ouais, pas mal, t'es battu.
Le train, transport en commun, je fais le max vélo, trottinette.
Transport en commun, en plus on est hors grève, donc c'est bien.
J'ai arrêté de venir pendant un petit moment, mais là je recommence à venir à Paris.
Les trottinettes, t'as testé un peu à Paris?
Ouais, je viens entre là, je sors de ma trottinette.
Tu sors de la trottinette,
ouais,
hein,
exactement.
Tu vois? Moi non, j'ai pas encore repris. Oula, pris la trottinette. Bon bah, on va quand même parler Greenwiz, hein. C'est peut-être un petit peu le but,
okay.
Parce que sinon on peut continuer hein, sur la trottinette, les transports et tout y quanti.
Trottinette
bon.
qui a une empreinte carbone d'ailleurs discutable.
Ah finalement. Ouais.
Bah oui, enfin pas la trottinette en elle-même, mais le fonctionnement du service
avec
des camions qui sillonnent Paris dans tous les sens pour les ramasser, les recharger,
c'est
etc. C'est pas l'idéal, mais je me dis que c'est toujours mieux qu'un taxi.
Tu veux qu'on fasse la focus trottinette électrique?
On peut, ouais, on peut faire deux heures sur les trottinettes si tu veux.
Bon allez, parle-moi de toi un petit peu, de tout ce que tu veux, ton parcours, ton enfance.
Écoute, écoute, moi j'ai un parcours finalement assez classique, plutôt enfant de la République, tu vois, dans le public tout le temps, lycée.
Enfant de la République, genre engagé politiquement ou enfant juste?
Non, dans le sens lycée public quoi, enfin éducation nationale, tu vois,
ouais.
Et lycée public, ensuite prépa et ensuite
prépa quoi?
Prépa maths sup maths spé.
Et t'as vachement fait de maths sup, derrière t'as fait.
Si, en fait, moi j'étais au lycée, j'étais à Louis le Grand à Paris.
Je pense que tout le monde connaît de nom.
Ouais, et donc j'ai fait maths sup, maths spé, parce que beaucoup faisaient maths sup, maths spé.
T'étais un bon élève.
J'étais un bon élève. Jusqu'au moment où les autres bons élèves de partout en France sont arrivés en prépa à Louis le Grand, et où là tu te rends compte qu'il y en a qui travaillent et qui finissent par doubler, et que toi t'as arrêté de travailler.
Il y en a qui viennent au talent.
Ouais, ça s'inverse. Bref, ensuite j'ai fait une école d'ingénieur, et en parallèle de mon école d'ingénieur, j'ai fait aussi un DEA de physique des quantiques, physique des solides, parce qu'à l'époque en fait je me demandais si je voulais pas faire chercheur. Voilà, et j'ai fait un stage au CNRS qui m'a fait comprendre que je voulais pas faire chercheur.
Pourquoi?
Parce que j'avais peur un peu du côté.
Tu cherches sans trouver.
Non, c'était passionnant, mais le côté faire toujours la même chose, comme retrouver dans un labo, je voyais les chercheurs qui étaient là depuis 35 ans.
Toujours la même, je connais pas tous.
Non, ils font pas toujours la même chose. Je caricature un peu, de manière générale, je caricature toujours, mais là particulièrement, donc ils sont quand même un peu toujours dans un labo, quoi. Après, ils ont des thèmes de recherche qui varient, mais je veux dire, voilà, tu vois, c'était cette vie-là.
En même temps, entreprise, tu peux aussi être toujours derrière un PC.
Ouais, tu peux, mais tu peux avoir des sujets variés, tu peux faire différentes entreprises, enfin, tu vois, tu peux avoir un parcours. En tout cas, je sais pas, mais je me suis pas senti, et à ce moment-là, c'était le moment où il y avait encore le service militaire, et donc je suis parti faire mon service militaire, en pas militaire, en fait, en Espagne, en coopération. Voilà.
Ok, ouais. Et en fait, le service militaire, c'est là que tu t'es dit,
Non, en fait, quand j'étais en Espagne, j'ai fait un peu, différents trucs, un peu n'importe quoi, et
un peu
finalement.
N'importe quoi.
Oui,
explicite-moi ce point.
De la musique, enfin, tout, bref, des choses diverses.
Vachement cherché, en fait.
Diverses et variées, voilà. Et puis, en fait, à l'époque, c'était l'époque de l'Internet qui démarrait en France, et donc tous mes potes qui étaient restés à Paris me disaient, viens, reviens, on est tous en train de monter des startups. Donc j'ai fini par céder à leur sirène, et je suis rentré, à la fin des années 90, à Paris.
Et là, je suis né.
Voilà, c'est ça.
Mais tu n'es pas mon père.
C'est dégueulasse de me rappeler ça. Et donc après, écoute, j'ai travaillé plutôt dans les télécoms et c'est en fait en étant dans des boîtes qui avaient été montées par des gens qui étaient vraiment des super entrepreneurs qui donnaient vraiment envie d'entreprendre que j'ai eu envie moi-même d'entreprendre. D'abord dans les télécoms parce que c'était le milieu que je venais de fréquenter et une première fois. Et puis ensuite, bon, faut savoir que j'avais une fibre écolo quand même depuis longtemps.
Comment ça? Vas-y, explique-moi ce point, parce que c'est vrai que c'est quand même la base de ton business.
Bah, donc, écoute, je vais pas te mentir, à l'époque, dans les années 90, l'écologie était pas aussi à la mode qu'aujourd'hui. Le bio, c'est...
Mais est-ce que c'était pas du bon sens à l'époque? Enfin, à l'époque, genre 90, je sais pas, mais... Est-ce qu'avant, justement, on évitait de gaspiller, etc., par bon sens, par...
Non, mais ça, c'était encore avant, ça. Ça,
c'était encore avant. C'était donc l'époque après, il y a eu un switch,
à l'époque
et après,
de ma grand-mère, quoi, tu
ouais,
vois, ça,
vrai,
plutôt.
Mais
non, 90, on était à fond dans l'hyper-conso, etc., mais... Donc, mais j'avais quand même, malgré tout, tu vois, déjà un peu une sensibilité politique sur ces thématiques de l'écologie, et donc, quand j'ai dû remonter une boîte en 2008, avec un copain, j'avais vraiment envie à la fois de faire du e-commerce parce que c'était un truc qui me plaisait depuis longtemps et puis à la fois de faire un truc qui ait du sens, tu vois, et notamment on a trouvé ce sujet-là dans l'écologie, enfin en tout cas dans la protection de l'environnement, on va dire au sens large. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est engagé en créant Greenwiz en 2008.
Donc vous étiez deux.
On était deux, ouais, à l'origine. Ouais.
Et vous, amis, donc c'est des potes,
ouais, c'est ça, un copain du
Comment
lycée.
Comment elle est arrivée l'idée
ouais, c'est lui qui a eu l'idée.
D'accord.
Ouais.
T'as suivi?
Ouais, c'est ça exactement. C'est lui qui a eu l'idée.
Et en termes de compétences, vous êtes complémentaires? Parce
ouais,
que t'as plutôt le matheux, quoi, non, du coup.
On était, non, lui, c'était encore plus un matheux que moi, encore
donc
plus.
Donc toi, t'es le commercial.
Ouais, j'étais le, pas grand chose, en fait, mais j'étais celui qui est...
J'étais le zikos, qui s'est revenu.
Non, mais j'ai beaucoup bossé. Non, on avait des profils un peu similaires. On va dire qu'après, on s'est séparé les domaines de compétences dans l'entreprise, de manière rationnelle, mais à la base on avait un profil plutôt similaire, sauf qu'il était un peu plus brillant que moi, quoi, on va dire. Voilà, ouais.
Et donc Greenwiz est né en
2008,
c'est quand même précurseur.
Tu vas me dire comme moi, c'est ça?
Non,
moi aussi.
Non, 18 ans. Là, je commençais quand même à être un peu ado, mais c'était déjà un peu précurseur quand même, non?
Ouais, il était assez visionnaire, donc si tu veux, il avait vu aux États-Unis déjà naître ce mouvement un peu du e-commerce green, du commerce
c'est
green.
C'est aux États-Unis que c'est né, ça?
Ouais, enfin ça a commencé pas mal là-bas, c'est thématique là, en tout cas.
Alors,
ouais. En tout cas,
pourtant, les plus nickel.
Non, mais en tout cas la traduction du, enfin pas la traduction, mais le fait de faire du e-commerce autour de ces sujets-là, les premiers sites qui ont existé, c'était aux États-Unis. Après, rapidement, il y a eu des sites dans d'autres pays, mais les tout premiers qui ont
existé. D'accord, oui, en général, c'est vrai que c'est quand même eux qui ont.
Ouais, surtout sur les nouvelles techno et le e-commerce, ils étaient un petit peu en avance. En tout cas, voilà. Et donc, on s'est lancé en 2008 avec au début un site qui n'était pas du tout un site de produits bio, mais vraiment un site de produits écologiques. Donc, tu vois, sur des thématiques comme la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les petits panneaux solaires.
Comment ça? C'est quoi concrètement ce type de produit?
C'était pas de l'alimentaire, si tu veux.
Oui, donc c'était tous les services finalement.
Non, pas du service.
Même pas.
Non, c'était des petits objets, tu vois, des réducteurs de débit pour les douches pour consommer moins d'eau, les premières lampes à LED, enfin tu vois, tous les objets,
c'était des briquets solaires, tout comme
voilà,
ça quoi.
Voilà, exactement. Tu vois, des lampes à dynamo, enfin c'était que des objets.
J'ai un briquet
si
solaire
veux.
Chez moi, je m'en suis jamais servi.
Ouais.
Ne fumant pas du coup.
Ouais, c'est ça, c'est moins utile.
C'est moins utile, ouais.
Moins utile, ouais.
Et en fait, comment tu es spécialisé après dans la grande conso?
Non, en fait ce qui s'est passé après, c'est que donc ça a commencé à marcher quand même avec ces thématiques-là, mais très vite en fait nos clients nous ont réclamé de vendre des produits bio en nous disant c'est super ce que vous faites, mais vous devriez vendre de l'alimentaire, ouais. Et puis à partir de 2010-2011, on a amorcé le virage de l'alimentaire, on commence à référencer des produits bio et là ça s'est mis à cartonner de manière complètement dingue
et aujourd'hui vous êtes numéro 1 d'ailleurs.
Ouais, aujourd'hui on est leader en Europe. Alors, tu vois, c'est le moment où on gonfle un peu.
On est
leader en Europe, on est leader en France assez largement. Je pense qu'on n'a pas, on doit être 20 ou 30 fois plus gros que notre premier concurrent sur la distribution en ligne de produits bio. Mais j'en tire aucune gloire. Hein.
Que produits bio, il n'y a plus tous ces petits services.
Si, on fait à peu près 85% d'alimentaire. On a encore. C'était pas du service.
Oui, pardon, pas du service. C'est du produit,
ouais,
mais
on fait à peu près 15% encore de non alimentaire, parce qu'en fait notre idée c'était vraiment d'amener aux gens qui voulaient avoir une consommation bio à la fois les produits de leur consommation, mais aussi tous les produits connexes, tu vois, des produits de cuisine, des produits, enfin voilà, qui peuvent aller avec une vie bio entre guillemets, une consommation bio. Et encore une fois, je tire aucune gloire du fait qu'on soit les plus gros. Si on a commencé les premiers, on est là depuis, on est les premiers à avoir amené ce thème de démocratiser l'accès aux produits bio, que pas mal reprennent aujourd'hui, et tant mieux d'ailleurs. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup fait taper dessus au début, parce que quand on est arrivé sur ce marché en 2008, les produits bio étaient vendus cher.
Oui, du coup, vous pouvez pas faire
cher.
Beaucoup de marge.
Non, c'est surtout que nous, quand on a commencé à vendre pas cher, les gens se sont tournés vers nous en disant arrêtez, vous êtes en train de casser le marché, etc. Mais malgré tout, voilà, on a mené notre barque et aujourd'hui, ouais, on est content, on est très présent en France, on est aussi présent à l'international puisqu'on est en Italie, en Espagne. Voilà, aujourd'hui, on est leader à peu près en Europe, on va dire, sur ce segment-là de la distribution de produits bio spécialisés.
Et moins cher, du coup.
En ligne. Bah, moins cher, oui. En tout cas, on essaie toujours de se positionner de façon très accessible pour nos clients. Après, tu sais, moins cher sur Internet, c'est compliqué c'est ça, de le déclarer. T'as toujours un site discount qui va
te sortir
un
Amazon
produit.
Toujours un Amazon qui va te proposer aussi un
produit.
Oui,
sur
moins
un
cher.
Produit. Ouais, bon, Amazon, moyen, parce qu'on a quand même pas beaucoup d'intersections d'offres avec Amazon, parce qu'encore une fois, nos produits, c'est la distribution spécialisée. Donc, c'est ce que tu vas plutôt retrouver dans des circuits physiques, comme Biocop et Naturalia. Donc, c'est pas trop des produits que tu vas trouver sur Amazon. À part sur l'offre quand Naturalia a décidé de faire alliance avec Amazon pour vendre ses produits sur Prime Now, mais bref. En tout cas, voilà.
Vous avez des produits exclusivement sur votre plateforme ou pas? Est-ce que vous faites des produits même Greenwiz?
Voilà, c'est ça, ce que j'allais te répondre. On en a forcément parce qu'on a nos propres, ce qu'on appelle notre MDD, donc nos produits en marque propre. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de références. On a l'objectif d'arriver très vite à 300 ou 400 références. Faut dire que ça, c'est des produits qui cartonnent.
Qui cartonnent, du coup, ça marche bien, en MDD. Ah ouais? Et pourquoi, tu penses? Parce que les gens ont l'impression que c'est moins cher, ou d'ailleurs, c'est peut-être moins cher, parce que vous faites vous-même?
Ouais, en fait, t'as deux façons de faire de la MDD. Et effectivement, une des façons de faire de la MDD, c'est d'aller chercher des produits, avec des coûts très très bas, en fait, pour concurrencer d'autres marques que tu peux vendre sur ton site. Donc ça, on n'a pas trop pris ce parti-là sur notre MDD. Nous, on essaie plutôt de faire des produits dans des univers où on a l'impression que ça fait sens, ou alors qu'il n'y a pas énormément de marques et que ça fait sens de rajouter des produits, ou alors sur des thématiques qui nous sont chères. Tu vois, par exemple, le zéro déchet, c'est pas une thématique de produits alimentaires, mais une thématique qu'on essaie de porter beaucoup chez Greenwiz. Et on a sorti quelques produits en marque propre pour faire du zéro déchet, tu vois, des pailles.
Comment, par exemple, des pailles.
Des pailles en fer.
Allez, j'en cherchais, il m'en faut. Ça rouille pas, tiens, parce que quelqu'un m'a challengé la dernière fois en me disant, mais Alice, avec ta paille là, parce que j'ai une paille, on dirait une espèce de dentelle, je te montrerai tout à l'heure.
Non, mais tu la laves au lave-vaisselle.
Parce qu'on m'a dit, en fait, tu as tout rouillé, t'as plein de trucs, donc après,
j'ai arrêté. Non.
Je trouve que j'allais mourir après avoir bien opéré.
Je comprends. Mais non, ça rouille pas. Et puis on a fait d'autres produits aussi, tu sais, ce qui remplace le film alimentaire. Enfin voilà, des produits comme ça. Cet hiver, on a beaucoup vendu. On avait sorti des tissus qui permettaient de faire pas du papier cadeau, du coup, mais du tissu cadeau pour éviter de jeter. Tu sais, parce que moi, j'ai beaucoup d'enfants, et le concept de, au moment de Noël, emballer des cadeaux et le lendemain déchirer tous les papiers pour les mettre à la poubelle, ça me fait un peu mal au crâne. Donc,
mais les journaux, tu sais que c'est top. Moi, je l'ai fait là, Noël dernier. T'emballes avec des journaux ou des magazines.
C'est bien. Mais
en
là,
plus, c'est joli.
Mais là, le tissu, c'est très,
c'est bien,
très joli.
En fait,
c'est réutilisable,
ouais,
en fait.
Vrai,
donc,
vrai,
voilà,
ouais.
Il l'ouvre, il le déchire pas, et puis tu récupères tout, et puis l'année d'après, tu recommences. Hein, donc, c'est
ouais,
pas mal.
C'est vrai.
Mal. Donc voilà, et puis après un moment important dans notre histoire, c'était le fait que de se faire de s'adosser à un industriel en 2016 qui est Carrefour.
Je crois connaître.
Ouais, que tu connais. Donc évidemment, ça a fait beaucoup grincer des dents.
Mais du coup, tu distribues des produits Carrefour.
Mais non, mais justement pas du tout. Enfin,
non.
Si tu veux, comme on est dans la distribution bio spécialisée, évidemment, il y a aucune intersection d'offres avec Carrefour.
Et pourtant, Carrefour fait du bio maintenant.
Ouais, mais
qui marche bien aussi d'ailleurs.
Ils font du bio, comme beaucoup d'enseignes de grandes distributions font du bio. Après, Carrefour, c'est le plus gros vendeur de bio en France. C'est les premiers à avoir vendu des produits bio en France. Enfin, ils ont plein de choses.
Les recettes sont. Pas de pub, mais c'est vraiment bon. Quoi.
Et puis aujourd'hui, ils sont super engagés dans la transition alimentaire. C'est un.
On connaît un monsieur Zuderski d'ailleurs.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ils sont sincèrement engagés. Ils pâtissent encore, si tu veux, d'une mauvaise réputation, ou alors d'un historique difficile à l'époque
de
l'hyperconso.
C'est le branding,
c'est
l'image,
quoi.
Tu sais, c'est l'image, je dis exactement, du gros retailer, etc.
C'est ça.
Mais bon.
Après, si tu veux, moi, le truc, voilà, c'est un sujet, c'est important, parce que c'est un sujet qui revient tout le temps.
Bien sûr.
Je pense que sur ces thématiques, tu vois, on peut être très engagé, et c'est notre cas, et en même temps, ne pas être excluant. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de solution globale, si tu veux, qui consistera à opposer les gens. J'entends tout le temps les gens dans notre secteur dire, nous on fait du bon bio, là-bas c'est du mauvais bio, eux c'est le diable, nous on est les meilleurs du monde, etc. Je pense que c'est une énorme connerie. C'est-à-dire que, si tu veux, aujourd'hui, la distribution spécialisée, elle peut pas nourrir tout le monde, il faut pas rêver, donc elle peut pas nourrir tout le monde. À la fois en quantité, en prix, enfin, tu vois, elle ne peut pas nourrir tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, on réserve ça aux gens, soit qui peuvent se le permettre, soit machin, et puis les autres, tant pis, ils mangent pas bio. Enfin, je pense que c'est une connerie. Donc, il faut que la distribution bio, si tu veux, garde sa place, espèce de place de leader, de modèle, qu'elle montre l'exemple, qu'elle soit innovante comme elle l'a toujours été. D'ailleurs, qu'elle soit innovante, qu'elle soit plus vertueuse, qu'elle ait toutes les qualités du monde. Moi, j'adore. Je respecte énormément toutes les enseignes de bio spécialisées qui existent.
Mais en fait, je respecte tous ceux qui essayent.
Voilà, c'est ça.
D'ailleurs, c'est le but de l'empreinte.
Voilà.
C'est que nous, on essaie d'encourager les personnes qui portent les valeurs.
Exactement.
Et après, peu importe qui est le meilleur ou pas le meilleur, plus on est nombreux à essayer de faire mieux. bah plus on fera exactement. Mieux, plus on
et si tu veux, quand je vois la pub qui avait télé, qui avait été sortie par les réseaux de distribution spécialisés, je trouve ça pathétique. Enfin, explique, qu'est-ce qu'ils veulent expliquer? Que eux sont super, que les autres sont pas vertueux, que les autres, eux cherchent pas à faire de l'argent et les autres veulent faire de l'argent. Enfin, bref, on sait très bien, notamment les actionnaires de certaines des chaînes de distribution bio spécialisées qui ont participé à cette pub, enfin, qu'ils essaient pas de nous prendre pour des imbéciles et nous faire croire qu'ils travaillent, qu'ils sont pas là pour se faire de l'argent. Donc, voilà, on peut tout à fait avoir la volonté de faire du commerce. Enfin, moi, je trouve que notre métier, il est noble dans le sens où plus on vend, plus on amène du produit bio chez les gens.
On va baisser les prix aussi, puisqu'il y aura plus de demandes. Donc, plus il y aura de demandes, plus il y aura de quantité.
Exactement, on baissera les prix, on rendra les choses plus accessibles. Et puis surtout, on va convertir de plus en plus de gens à ce mode de consommation. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de transition aussi dans l'agriculture.
On va accompagner les agriculteurs, on va les payer mieux, bien sûr.
C'est un cercle vertueux, si tu veux. Donc, il ne faut pas avoir honte de dire, oui, on essaie de vendre beaucoup. Après, c'est vrai qu'en même temps, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai aussi qu'on est sur un métier dans lequel les marges sont faibles. Tu vois, souvent, les gens nous disent, parfois des clients qui nous disent oui mais vous gagnez des millions machin etc. C'est pas du tout le cas. Enfin tu vois, on a des métiers difficiles, des métiers de centimes où les marges sont faibles. On essaie de
surtout sur du bio.
Ouais, on essaie de respecter nos producteurs, d'acheter à des coûts décents. Donc les marges sont pas énormes. Donc voilà, oui, effectivement, c'est du commerce. Oui, ça fait vivre des gens. Enfin, moi, je suis fier de dire qu'aujourd'hui, il y a 150 personnes qui travaillent chez Greenwiz. Voilà, il y en a certains qu'on a embauchés, qui avaient jamais travaillé nulle part et qu'aujourd'hui ont des postes de direction. Voilà, c'est super. Il faut pas se voiler la face. C'est du commerce, mais c'est pas pour autant que c'est mal ou c'est diabolique. Et en même temps, voilà, on est dans le secteur du bio. Donc j'aime pas un peu tous ces gens qui opposent, qui essayent de nous on se définit comme engagés pas parfaits parce que tu vois même nous voilà on fait du commerce.
Il n'y a pas de perfection.
Oui.
C'est comme l'alimentation, ceux qui pensent manger parfaitement qui ont plein de carences. En fait il n'y a pas de perfection. Faut juste moi j'encourage le positivisme, c'est de s'améliorer, c'est de faire mieux et tu vends du produit bio en essayant de baisser les prix. Excuse-moi, mais ça reste noble. Là, voilà, c'est mon parti pris, mais je pense que c'est important de remettre au cœur de...
Je suis d'accord avec toi.
Comme quand je travaillais chez Carrefour. Pareil, il se fait tout le temps taper sur les doigts. Et moi, je voyais Bertrand qui essayait tout le temps de faire mieux et d'encourager, et de promouvoir, de s'adosser avec c'est qui le patron, etc. Mais personne ne sera jamais content. Donc, je pense que quand c'est comme ça, il faut continuer à avancer. Il faut savoir qu'on fait mieux et qu'on s'améliore. Et voilà.
Et après, bon, moi, j'aime beaucoup toutes les. Il y a pas mal de boîtes en ce moment qui sortent sur Internet, qui vendent du bio. Des jeunes boîtes, souvent avec des modèles un peu qui sont un peu copiés des États-Unis. Mais bon, il n'y a pas de honte, hein, avec des systèmes d'abonnement pour faire croire que après derrière les prix sont hyper compétitifs. Dans le fond, les prix sont pas beaucoup plus compétitifs.
Finalement, ils continuent à vendre du bio, donc.
Oui, mais voilà, mais toutes ces initiatives-là, pour moi, sont respectables et sont appréciables. D'ailleurs, j'aime beaucoup discuter avec mes confrères quand j'en ai l'occasion. Enfin, je trouve que voilà, chacun à notre petit niveau, il faut qu'on essaie de faire bouger les choses, de faire avancer les choses.
Le bio.
Voilà. Et puis ensemble, on va y arriver. À force de réunir nos forces et nos efforts, on va y arriver. Quoi.
Et tu me parlais, puisque je me rappelle quand on s'était vu, tu m'avais parlé du plastique. Mm-hmm. J'aimerais bien que tu nous en reparles là dans le podcast. Tu me disais, oui, nous, on n'est pas zéro plastique. Pourquoi? Parce que parfois, on est obligé d'emballer dans du plastique des produits pour pas qu'il y ait de pertes. Mm-hmm. Donc ça, j'aimerais.
Alors en fait, il y a deux choses. Si tu veux, encore une fois, dans cette notion de n'engager pas parfait, c'est on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut. D'accord? Mais alors effectivement, quand tu vends des produits aussi divers que ceux qu'on vend, c'est-à-dire qu'on vend du crayon à papier, en passant par la bouteille de verre de 2 litres, en passant par le paquet de riz. Enfin, tu vois, t'as des trucs qui sont vraiment extrêmement hétérogènes en termes de logistique. C'est très compliqué de faire des colis que t'expédies avec tous ces produits-là et à limiter en même temps la casse. Pourquoi ? Parce que les transporteurs ont des process souvent un peu industrialisés qui font que les colis sont pas traités avec beaucoup de douceur et donc il y a des chocs. Parfois, les colis tombent de haut. Enfin, ça arrive. Enfin, des problématiques comme ça. Donc, effectivement, il nous arrive, alors le plus rarement possible, on essaye de mettre un peu de plastique. Alors on dit ouais, oh là là, halte au feu, le plastique c'est horrible. Oui, c'est horrible, mais c'est encore plus horrible en termes d'empreinte carbone si la bouteille se casse et qu'on est obligé de renvoyer l'intégralité du colis une deuxième fois. Parce qu'évidemment, le client, il va demander à recevoir sa commande et il aura bien raison. Et on va lui dire oui, et on va lui renvoyer.
Et puis il y a pas encore d'alternative qu'on ait trouvé
si,
plus résistante.
Non, mais si, il y a des alternatives, on n'arrête pas d'en tester. Hein, si tu veux, on passe notre temps à tester. Et c'est nous évidemment l'idéal, ça serait de pas avoir de plastique. Après, voilà, on est dans un modèle. Tu me tends la perche pour parler de quelque chose qui me tient à cœur, mais on est dans un modèle de e-commerce très centralisé, si tu veux, avec des entrepôts et on envoie toutes les commandes en France depuis cet entrepôt. Ce modèle, il a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que d'un point de vue empreinte carbone, évidemment, il n'est pas idéal. Pourquoi ? Parce que t'es obligé de faire des colis, de mettre du calage, de confier tes colis à des transporteurs qui vont les amener chez des gens. Donc ça, déjà en soi, c'est pas l'idéal.
Transport camion, toi, du coup, c'est.
Tu es transporteur du marché, quoi. Donc après, tu contrôles pas quelque part. Si tu veux, à un moment donné, tu perds la main. Alors Tu vois, je salue par exemple notre partenaire Chronopost qui, dès à présent...
C'est sur... ça en fait, il faut s'adosser à des transporteurs qui font mieux, qui sont plus responsables.
Tu vois, Chronopost là maintenant sur Paris ne livre plus qu'en véhicule électrique. Et je crois que dans l'année, ils vont s'étendre sur toute la France comme ça. Donc
c'est un choix
malgré tout, si tu veux, ce modèle, il est pas, et tu vois, il est pas génial en termes d'empreinte carbone. Et le deuxième inconvénient de ce modèle, c'est que nous, on veut absolument faire du frais, faire des fruits et légumes, faire du local, faire du circuit court. Et c'est très compliqué dans un modèle centralisé, voire impossible. Donc... on a décidé, tu vois, comme on essaie quand même de s'améliorer, d'essayer de switcher un peu de modèle. Et là, à Paris, on a ouvert un entrepôt et on lance un service qui s'appelle le marché Greenwiz, où là, tu vas retrouver
une boutique physique en fait.
Non. C'est encore un service en ligne, mais c'est un condensé de nos best-sellers, si tu veux, de l'offre sec traditionnelle, auquel on a rajouté pléiade de fruits et légumes, de frais, de produits frais, etc.
C'est un drive presque en fait.
Non, c'est pas un drive parce que tu seras livré dans la journée quand tu veux. Mais par quelqu'un qui viendra t'amener tes courses de la main à la main dans des sacs et donc avec tout un système de transport écolo. Donc le principe c'est de se passer du calage, de se passer des cartons, d'avoir quelqu'un voilà, un service un peu plus personnalisé. Nous on appelle ça du e-commerce de proximité. Donc on va commencer à Paris ça s'appelle le marché Greenwiz parce que l'offre de fruits et légumes est énorme et ça nous permet aussi de sourcer tous ces fruits et légumes de manière locale. Et donc si tu veux de partir dans une logique de déploiement de ce service dans toute la France avec à chaque fois cette dimension circuit court et puis cette dimension une livraison plus clean, une empreinte carbone meilleure et puis une plus grande proximité avec nos clients et puis en plus avec un service un peu meilleur puisque tu peux te faire la livrer dans la journée sur un créneau de 2 heures quand tu veux, donc c'est quand même très pratique.
Et les livreurs, ce sera du coup des livreurs Greenwiz ou des personnes que tu vas après
mon objectif secret c'est de
qui sera plus tout secret du coup suite à ce podcast
écouté par des centaines de millions de personnes effectivement le secret
n'existera plus. On est pas mal là si on a des centaines de millions d'auditeurs
mon but ultime c'est de tout faire en interne maintenant pour le démarrage là pour aller vite plus simplicité on va s'appuyer sur notre prestataire Chronopost dont je parlais tout à l'heure qui a un service particulier qui s'appelle Delifresh et qui fait ce genre de livraison mais à terme moi je me demande si ça serait pas une bonne idée de l'internaliser complètement. En tout cas voilà, tu vois comme quoi ce modèle est tout ça pour dire
aussi,
encore une fois engagé pas parfait, tu vois, on est e-commerçant, on vend des produits bio machin, mais on se rend compte aussi que notre modèle il est pas au top et on essaye de faire les efforts qu'on peut faire pour améliorer les choses.
De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de modèle top, mais je pense que tu vois toujours ta marge de progression. D'ailleurs, là, l'année dernière, t'as fait quoi comme amélioration? Au niveau packaging, au niveau...
On a beaucoup bossé sur le packaging. Tu vois, on a un truc dont on est content, c'est on a beaucoup amélioré l'expérience d'unboxing, comme on dit. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui se passe quand tu reçois ton colis à la maison? Donc, on a travaillé pas mal sur le design de nos cartons pour en faire des objets qui soient réutilisables. Donc là, au moment de Noël, si tu veux, on avait des gros sapins en carton qui étaient découpables sur les cartons. Et ensuite, tu pouvais les monter, les colorier, etc. C'était sympa. Là, maintenant, on vient de sortir une nouvelle gamme où tu as tout un jeu de dominos, en fait, que tu peux découper. Ça te fait des gros dominos avec lesquels tu peux jouer. Donc, tu vois.
Ouais, t'essayes de créer une expérience utilisateur avec chaque pièce de...
Après, on continue à bosser sur le site. L'année dernière, on a été élu meilleur site de course en ligne. Tu vois, ce qu'on nous a rendu très fiers devant tous les sites des grandes enseignes, etc. Donc, on bosse beaucoup sur l'expérience client sur le site, d'avoir un truc qui soit vraiment agréable.
Comme t'as pas d'expérience client magasin, c'est intéressant
que
tu fasses ça.
Et puis c'est difficile, c'est difficile. Et puis de vraiment avoir le client, tu vois, un centrage client hyper important, c'est-à-dire être au plus proche de nos clients. Encore une fois, le e-commerce c'est pas un métier facile parce que t'es loin de tes clients.
C'est ça. J'allais te demander comment tu crées cette proximité au quotidien.
Écoute, il y a plein de choses. Je vais te donner un exemple simple. J'ai mis mon mail perso directement sur le site, accessible aux clients.
Ça va ta boîte mail?
Ouais, ça va,
Tu vis?
Non, franchement, ça va.
C'est vrai?
Ouais, je reçois...
Et du coup, t'arrives à leur répondre
Je réponds, ouais. Tu reçois entre 10 et 15 mails par jour. Ça va du mail de félicitations hyper sympa, au problème de livraison, à la question produit, au mail d'insultes, parfois, de gens, voilà, sans aucune raison, ils sortent de nulle part.
Haters.
On a tout. Enfin, j'ai tout. Mais en même temps, c'est...
En même temps,
ultra...
je pense que tu te sens connecté à la clientèle et c'est important.
C'est hyper instructif. Mmh. Je te jure, depuis que j'ai fait ça, on a résolu
terrain,
plein
quoi.
De problèmes. Ouais. On a résolu plein de problèmes parce que... Parce qu'en plus, tu vois, dans une boîte, plus tu grossis et plus la circulation de l'information quand même est complexe. Donc, tu peux avoir des sujets qui arrivent à ton service client et avant que toi, t'en prennes vraiment conscience, que ça te remonte, c'est pas toujours évident. Enfin, tu vois, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà. Et puis après, ce qui est difficile aussi, je trouve, dans l'e-commerce, c'est que le côté impersonnel fait que t'as aussi des gens qui parfois se permettent, tu vois, de un type de comportement ou de discours vis-à-vis de nous.
Sur les plateformes sociales,
qui se permettrait jamais, si tu veux, dans un magasin physique, tu vois, parce que on n'est pas en phase 2, donc c'est très facile. Donc et en même temps, tu vois, voilà, en même temps, nous, on a le souci de toujours dire oui au client, de faire en sorte que le client vraiment soit roi, d'aller toujours dans le sens du client.
T'as fait un jeu de mots là.
Et puis parfois, non, c'est pas un jeu de mots. Ouais. mais parfois c'est dur parce que t'es obligé de supporter, d'écouter des discours qui sont très haineux. Enfin, tu vois, le discours, vous pensez qu'à l'argent, vous êtes là pour faire de l'argent. De toute façon, vous êtes fait racheter par. Enfin, tu vois, bon, t'es discours, t'as envie de leur dire bon. Mm. Ouais. Tu vois, c'est difficile. Mais bon, voilà, on se plaint pas. Écoute, on fait un beau métier, on est tous passionnés. Toute l'équipe est hyper engagée. Enfin, tu vois, on partage tous cette vision de pourquoi on est là, pourquoi on fait ça.
Et même dans les bureaux et tout, faites attention à tout ce qui est recyclage,
ouais,
gaspillage, tout ça.
Bien sûr. Alors, encore une fois, on n'est pas parfait, mais on fait des efforts. Tous les ans, on essaye de s'améliorer un peu. J'ai la chance, si tu veux, d'être entouré d'équipes jeunes.
Convaincues, je pense.
Ouais, jeunes, engagées. Donc, si tu veux,
Les gens qui rejoignent Greenway se disent pas, voilà.
Souvent, les idées viennent d'eux, hein. Enfin, tu vois, beaucoup des améliorations qu'on a mis en place viennent des gens qui travaillent chez nous. C'est super. Il y a une bonne ambiance. On essaie, tu sais, depuis longtemps, on a placé aussi l'épanouissement des salariés au cœur vraiment de notre modèle. En se disant que ça pouvait marcher que si jamais les gens étaient, tu vois, vraiment épanouis. Donc, là, on profite un peu du fait que notre métier est très informatisé pour essayer d'automatiser au maximum les tâches de chacun, pour que, tu vois, ils puissent dégager un peu plus de valeur ajoutée sur chaque poste. Donc tout ça, ça contribue, mais c'est surtout en fait la somme de l'humain, quoi. C'est-à-dire tous les humains qui travaillent dans cette boîte. On a vraiment un ensemble de belles personnes. Moi, je m'appuie sur un comité de direction vraiment génial, tous des super experts de leur domaine et en même temps. Tous de belles personnes, donc c'est très sympa, c'est une belle expérience, quoi. Une belle expérience.
Super. Et quels sont tes prochains défis alors pour 2020?
Écoute, nous, on t'a compris qu'on était lancé un peu dans une expansion internationale, hein, donc avec l'idée de devenir un peu le champion européen du bio-spé en ligne. Donc on a fait l'Italie, on a fait l'Espagne, donc il n'est pas exclu qu'en 2020 on continue avec d'autres pays européens. C'est même presque sûr en fait, hein, mais je vais pas te dire lesquels aujourd'hui, mais c'est presque sûr. Et puis on lorgne aussi un peu avec un air un peu rêveur vers d'autres destinations un peu plus lointaines, mais voilà. Donc il est pas possible. Bon, donc tu vois, on a ce côté un peu international, on a ce côté que je t'ai décrit de switch de notre modèle vers le marché Greenways qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a envie de réussir, et c'est un de nos gros challenges pour cette année. Paris est lancé, et voilà, on aimerait bien aller plus loin et faire d'autres villes assez rapidement, donc on verra un peu ce qu'on est capable de faire. Voilà, ça fait déjà des beaux challenges. Tout ça en continuant à grossir, en continuant à bien intégrer nos amis italiens, nos amis espagnols, avec qui on partage tout aussi, et ça c'est vraiment aussi une très belle expérience, très belle aventure, le fait de croiser les cultures comme ça, de voir à quel point on a des choses en commun. On a construit des choses qui se ressemblent énormément alors qu'on se connaissait pas, qu'on était dans des pays différents, et finalement on retrouve le même type d'équipe, le même type de personnes, le même type de valeurs. Enfin, tu vois, ça c'est assez drôle.
C'est
et donc de croiser ça aujourd'hui, on fait beaucoup d'échanges. Tu vois, des équipes d'Espagne qui viennent en France.
Et tu feras, tu penses, des produits, des spécialités locales, par exemple espagnoles, des spécialités.
C'est pas méga.
Tiramisu Greenways.
Ouais, mais sur le principe, c'est pas méga circuit court. La logique. Non, mais attends. En même temps, si tu veux, il faut être. Si tu veux, une des raisons pour lesquelles on a fait l'Italie et l'Espagne, c'est qu'aujourd'hui, c'est des énormes bassins de production bio, agroalimentaire.
C'est vrai.
Nous, dans notre française, on avait beaucoup de marques italiennes, beaucoup de marques espagnoles. Donc évidemment, le fait d'avoir des antennes locales maintenant dans ces pays-là qui connaissent hyper bien l'écosystème, t'imagines bien que pour nous c'est hyper bénéfique, hein. On est très proche de nos fournisseurs français, bien entendu, parce qu'en plus on les côtoie depuis des années, et on est aussi très proche maintenant de nos fournisseurs italiens, de nos fournisseurs espagnols, donc on essaye quand même de tirer profit de tout ça. Mais en tout cas on met les best practices en commun, on essaie de trouver des synergies. Là, prochainement, on va probablement faire la première fois qu'on fera ça dans l'histoire, une espèce d'opération européenne simultanée, si tu veux, dans tous les pays, avec une cause commune qu'on défendra, enfin avec des choses voilà qui vont être sympas. Donc un beau challenge sur l'international. Donc tu vois, international et puis le marché Greenway, ça nous fera déjà tout ça sans perdre nos valeurs, en restant bien sur notre socle de fondamentaux et sur notre éthique, ça sera déjà un beau parcours si on y arrive pour 2020.
Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose?
Non, merci, c'est super, j'adore l'empreinte.
C'est vrai, bravo. Merci d'être venu.
Non, bravo, c'est super, j'écoute à chaque fois et à part Bertrand Sidorski, évidemment, le reste était... non, mais c'est toujours très intéressant. Et encore une fois, je suis convaincu que la solution sera globale ou ne sera pas. Et donc c'est bien de sentir que il y a des gens de partout, de plein d'univers différents, de plein de types d'entreprises différentes qui commencent à s'y mettre, qui commencent à envisager ça. Et voilà, je trouve que c'est quand même un appel à l'optimisme qui est très intéressant.
Merci Romain.
Je t'en prie. Merci à toi.
Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de l'Empreinte pour retrouver toutes les actualités RSE du moment. Rendez-vous sur la page de l'Empreinte du site bababam.com.